Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Histoire de sport, enquête et chronique insolite ». Pour cela, nous recevons Philippe Tétard, auteur de ce livre.
Le ring, le boxeur inquiet se tient aux aguets, prend garde au crochet. Il esquive des pings, des coches, des directs, du droit, du gauche. Attaquant les joueurs de balle, rondeau bien ovale, descend en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué, bravo. Et voici les escrimeurs et les nageurs, les basketteurs. Par milliers ceux qui pratiquent les nobles sports athlétiques. Le sauteur qui prend son élan frissonne un instant et hop se détend. Sa nouvelle performance bat tous les records de France. Des coureurs mouvant peloton défilent et s'en vont par monts et vallons. Et le vent sur les grands chemins emporte au loin ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur. Joyeux et fort, ivre d'effort, chantons vive le sport. Match international pour la grande finale, avant le signal, dans le stade avec passion, on parie sur ses champions. Managers, soigneurs, supporters, vibrants spectateurs chantent leurs couleurs. Les voici parmi les vivas qui font leur entrée. Coup d'envoi, le match se déroule, l'émotion saisit la foule. Plein d'espoir en ses vedettes, le sportif crie à tue-tête. La victoire hésite longtemps entre les deux camps, qui sera gagnant? C'est une lutte incertaine qui nous tient tous en haleine. Mais s'il faut qu'il y ait un vainqueur, gronde la rumeur qu'il soit le meilleur. Et des tribunes au gradin, le vent porte ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et fort, ivre d'effort, chantons vive le sport.
Alors Philippe Tétard, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, présentez-vous, quelle est votre fonction ?
Je suis maître de conférences à l'université, au Mans. Je suis historien et je me suis spécialisé dans l'histoire du sport.
Et concrètement, quelle est votre formation de base ?
À l'origine, j'ai un doctorat de l'Institut d'études politiques de Paris, voilà, qui m'a amené par des chemins inattendus à finir par faire de l'histoire du sport en étant à l'origine un spécialiste d'histoire politique et culturelle.
Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le thème du sport. Pourquoi avoir choisi de travailler sur l'histoire du sport ?
Par des chemins détournés qui m'ont invité à travailler là-dessus, parce qu'il convenait de réussir à gagner sa croûte, si vous me passez l'expression. Donc au départ, c'était moins un choix qu'une opportunité qui m'a permis d'avoir un poste. Et puis, en vérité, je me suis aperçu assez vite que c'était une histoire extrêmement riche, parce que l'histoire du sport, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, n'est pas juste faite de résultats et de restitutions d'événements, Jeux Olympiques, Coupe du Monde de football, mais au contraire, c'est une histoire très très riche qui permet de parler d'histoire sociale, d'histoire économique, d'histoire politique, et j'en passe bien entendu. Donc c'est une histoire tout à fait captivante et je ne m'en lasse pas.
Et concrètement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce thème ?
De travailler en particulier sur la manière dont la population, hein, en l'occurrence, l'occurrence la France, puisque c'est mon sujet de prédilection, bien entendu, se passionne pour divers types de pratiques ou de spectacles sportifs, avec des changements au fil du temps, de la Troisième République à la Quatrième, et puis jusqu'à nos jours. Et puis essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils sont passionnés pour aujourd'hui de football, comme ils pouvaient l'être il y a un peu plus de 100 ans de cyclisme, même si ça demeure une des passions sportives privilégiées des Français. Voilà, essayer de comprendre un petit peu les raisons pour lesquelles il y a cet engouement autour du sport qui est, c'est une chose importante à souligner, le mouvement de masse, le phénomène de masse, l'un des plus marquants à l'échelle du XXe siècle.
Et est-ce que vous êtes vous-même sportif ?
Oui, je suis un peu sportif, oui, j'ai un passé de nageur et depuis une trentaine d'années, je m'y suis remis et je m'évertue à avoir une pratique physique très régulière.
Alors, vous avez sorti il y a peu le livre « Histoire de sport, enquête et chronique insolite ». Déjà, pourquoi ce titre dans un premier temps ?
Eh bien, parce que, à la différence de mes précédents ouvrages, celui-ci est fondé sur des images, ça n'est pas le premier, j'en avais déjà sorti un, avec une particularité, c'est qu'il s'agissait moins, ou il s'agit moins dans ce livre, d'utiliser les images pour illustrer des textes, que de partir des images et de montrer ce qu'elles cachent, ce qu'elles peuvent révéler de l'histoire du sport. Donc, ça donne lieu à un certain nombre de chroniques ou à des enquêtes plus aboutis qui, partant d'une seule image, permettent de révéler toute une histoire qui est cachée derrière un portrait ou une scène de groupe, alors que quand on regarde l'image comme ça, sans s'interroger sur sa nature, on n'y voit qu'une image et on n'y voit pas une histoire. Donc moi, mon boulot était de réveiller les histoires cachées derrière les images.
Et concrètement, de quoi parle ce livre ?
Alors ça parle de tout et d'aucuns diraient n'importe quoi, puisque ça va des courses d'autruche au basket féminin, du basket féminin aux courses de tonneaux, des courses de tonneaux aux courses cyclistes plus académiques. Mais à chaque fois, le fil conducteur, c'est comme je vous le disais il y a peu, c'est essayer de saisir, là, cette fois-ci au travers de l'image prolongée par un texte, la nature des passions sportives des Français, de quoi elles étaient faites et pourquoi, à tel ou tel moment, elles ont été aussi prégnantes que ça. Donc c'est un ouvrage qui n'a pas d'ordre, sinon un ordre chronologique, qui peut se lire du début à la fin, mais qui peut aussi se butiner parce que chacun des textes est complètement autonome du précédent et du suivant.
Alors pourquoi avoir fait le choix justement de parler de la pratique sportive entre 1890 et 1930 ?
Alors là, pour une raison relativement simple, c'est que pour avoir un commerce avec les collections d'images de la Bibliothèque nationale, en particulier assez étroit depuis une quinzaine d'années désormais, j'en connais bien les fonds. Et du coup, ça m'a permis d'exhumer des images inattendues. Celles qui sont publiées dans le livre sont inédites à 95% au moins. Et puis de montrer, évidemment, la valeur historique, la valeur patrimoniale, la valeur archivistique de ces images qui n'avaient jamais été publiées jusqu'à présent. En dehors du fait que, comme je suis plutôt un spécialiste de l'histoire du 19e et de la 3e République, j'étais porté naturellement à travailler sur des images de cette époque-là.
Et vous parlez bien sûr de plusieurs sports, notamment des sports assez originaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Ah, y a beaucoup d'exemples de sports que vous dites originaux, mais qui en fait nous apparaissent aujourd'hui originaux, alors que dans les perceptions de l'époque, ils ne l'étaient pas. Alors, pour des exemples, les courses de tonneaux. Courses de tonneaux qui étaient organisées par et pour les débardeurs et les dockers de Paris notamment, mais pas seulement, et dans lesquels ils faisaient valoir tout à la fois leur maîtrise du maniement des tonneaux, et puis en même temps ils faisaient valoir leurs aptitudes physiques, peut-être plus leur force et leur aptitude physique que leur sportivité à proprement parler. Mais enfin, ils donnaient ça à voir dans des courses qui duraient 30 à 40 km dans Paris, avec un ou deux tonneaux à faire tourner en permanence, ce qui représente une véritable prouesse physique et une prouesse sportive. Bon, pour un deuxième exemple, et sans les démultiplier, la mode éphémère mais notable des courses d'autruche sur les hippodromes parisiens. Alors ça a duré peu de temps, mais malgré tout, ça donne une dimension un peu cocasse à l'histoire du sport que de voir des jockeys grimper sur le dos des autruches et de se donner en spectacle devant un public relativement fourni. Voilà. Mais le livre n'est pas fait que de ça, hein. Bien entendu. Il est fait aussi d'un certain nombre de vignettes portant sur des personnages toujours un peu tenus dans l'ombre de l'histoire du sport. Il y a par exemple un texte sur un masseur et sur l'histoire des masseurs dans les entrailles des vélodromes de la Belle Époque. Et le masseur était évidemment des personnages clés, puisque c'était eux qui permettaient, en particulier dans les courses dites de 6 jours, où les hommes tournaient en relais 72 heures durant, de délasser, de réparer les bons hommes pour qu'ils puissent repartir sur la piste. Voilà quelques exemples.
Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va. Si t'en coûte de voir une route sans l'empruntir, va. On t'oubliera. On sait faire ça, mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes adieux. Tu veux, il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement le mot juste. Soigne tes adieux. Tu veux, nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement le mot juste. La pluie ne mouille pas les gens comme toi. Va. Si tu crois que là-bas, les chiens n'aboient pas sur les gens comme toi. On t'oubliera, ça, on sait faire ça, mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes adieux. Tu veux, il n'y a rien pour une fête. Si, seulement le beau geste, seulement le mot juste, soigne tes adieux. Tu veux, nous attendons, cher ami, seulement le beau geste.
Alors sinon, cet ouvrage, comment il a été écrit? Quelles sont les recherches qui ont été faites?
Les recherches qui ont été faites, ce sont d'abord des recherches iconographiques, bien sûr, pour déterminer les photos qui m'intéressaient le plus. Et puis à partir du moment où j'avais sélectionné un certain nombre d'images, de savoir dans quelle mesure je serais capable de pouvoir les raconter au-delà de l'image elle-même. Voilà, donc il y a eu un choix qui a d'abord été un choix iconographique. Et puis ensuite, l'investigation elle-même, c'est une investigation menée d'une part dans les livres, pour ceux qui parlent de tel ou tel thème que j'envisageais d'aborder. Ça a été assez peu le cas. Et pour l'essentiel, je me suis tourné vers les archives institutionnelles, archives municipales, archives des conseils généraux, et plus encore vers la presse de l'époque, qui fourmille d'informations permettant de pister les acteurs présents sur les dites photos. Enfin, autrement dit, une investigation d'historien tout à fait académique.
Et à l'origine, il me semble que c'était des chroniques.
Oui, alors à l'origine de ce livre est un peu singulière, puisque durant le premier confinement, nous étions tous plus ou moins désœuvrés à certains moments, et il m'a pris l'idée un beau matin de chroniquer une image que j'aimais beaucoup, voilà, une image d'un masseur dans les entrailles du vélodrome d'hiver avant la Première Guerre mondiale. Et puis l'idée m'est venue, puisque ça avait eu l'heure de plaire à certains de mes amis, comme on dit sur Facebook, et de recommencer le lendemain, et ainsi de suite, jusqu'à me proposer à moi-même, comme pari, d'écrire une chronique tous les jours jusqu'à la fin du confinement. Ce que j'ai fait, et ce que j'ai recommencé en partie lors du deuxième confinement. Donc j'ai publié à ce moment-là sur le net 70 chroniques à peu près, et j'en ai gardé une trentaine pour ce livre-là, qui ont été réécrites, et j'en ai écrit 50 inédites, pour composer cet ouvrage-là, lequel n'est pas l'émanation unique de ce qui a été publié sur Facebook avec un travail d'écriture quotidien qui fait qu'on ne peut pas vraiment faire aboutir les textes sur le plan littéraire et sur le fond. Donc tout ça a été profondément retravaillé ensuite pour donner lieu à la publication de cet ouvrage qui fait un petit peu moins de 400 pages et qui comprend 400 images.
Et rappelez-nous, qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre ?
On découvre plein de choses. On découvre des aspects complètement inattendus. Je vais prendre deux exemples. Celui-ci, notamment, que Paris était, pour les courses parisiennes, et notamment les courses à pied, hein, Paris était une ville qui n'a pas la physionomie actuelle, dans laquelle il y avait en particulier des abattoirs, et qu'il arrivait, comme en témoignent certaines photos publiées dans ce livre-là, qu'une course soit tout simplement stoppée ou qu'un certain nombre de concurrents soient embêtés dans leur progression par le passage d'un troupeau de moutons ou d'un troupeau de chèvres. Alors c'est quelque chose qui aujourd'hui apparaît tout à fait improbable, cocasse, mais qui finalement à l'époque ne l'était pas. Que découvre-t-on d'autre, bien que la passion des contemporains pour le cyclisme et puis l'aviation également porta un certain nombre d'ingénieurs et d'ingénieux cyclistes à fabriquer ce qu'on appelait des aviettes, c'est-à-dire des vélos munis d'ailes avec des systèmes d'engrenage permettant, avec plus ou moins de réussite, de décoller. Alors il y avait des concours sur des vélodromes, des concours très prisés, hein, qu'ont occupé un certain nombre de passionnés des années 10 aux années 1920. Voilà donc des aspects un peu inattendus, mais qui aux yeux des contemporains n'apparaissaient pas du tout comme des loufoqueries.
Alors sinon, vous avez également sorti un autre ouvrage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ?
Alors j'ai sorti par ailleurs un roman policier au même moment qui s'appelle Virgo Lactance. Virgo Lactance en latin ça veut dire la Vierge allaitante. Alors évidemment c'est un titre un peu surprenant pour un polar, pour ceux qui le liront parce que je ne peux pas déflorer évidemment le fil de l'intrigue sur votre antenne. Ils comprendront très vite que ce mythe de la Vierge allaitante qui renvoie à un autre mythe, le mythe de Péra et Mycon dans la Rome antique, est un biais au travers duquel j'essaye de raconter l'histoire d'un homme, alors appelons-le le méchant ou le malfaisant, qui ayant été traumatisé, et le mot est faible, dans son enfance par une mère extrêmement brutale, prend sa revanche sur la vie en étant tout à fait agressif avec la gente féminine. Voilà. Et cet homme, qui est un prédateur, disons les choses comme elles sont, est pris en chasse par trois enquêteurs qui vont réussir en n'ayant strictement aucun indice, pas à pas, à le nasser, à le coincer, afin de l'empêcher de continuer à nuire comme il le fait depuis très longtemps.
Et pourquoi le choix d'un roman ?
Oh, parce que j'entretiens depuis toujours un goût sans doute immodéré pour l'écriture et que je me suis toujours partagé entre écriture fictionnelle et science historique. Donc c'est vrai que l'essentiel des ouvrages que j'ai publiés sont des ouvrages d'histoire, mais enfin l'ensemble des ouvrages que j'ai eu le plaisir de publier depuis une trentaine d'années sont parfois traversés par une fiction ou une autre. Voilà, donc là ça m'a repris et puis j'ai réussi à faire aboutir ce gros manuscrit.
Alors où peut-on acquérir vos livres et notamment Histoire de sport, enquête et chronique insolite ?
Alors, en principe, ces ouvrages sont disponibles dans les librairies, si tant est que les libraires les aient fait venir. Mais vu la masse absolument démente de livres qui paraît chaque année, ça n'est pas assuré. S'agissant de l'ouvrage relatif à l'histoire des sports, on peut le commander soit sur le site de l'éditeur, c'est-à-dire les presses universitaires de Rennes, soit sur les sites conventionnels ou par le biais de son libraire. Et puis, pour le roman policier, on peut se le procurer en contactant directement l'éditeur sur le site des éditions du Borrego, B-O-2-R-E-G-O. Et de la même manière, on peut le commander par le biais des libraires ou des plateformes que vos auditeurs doivent utiliser ordinairement.
Sinon, quels sont vos projets? Peut-être les projets de dédicace, projets de prochaine sortie de livres?
Alors, s'agissant de la dédicace, elle a déjà eu lieu, puisque ça s'est déroulé au Barouf. Et quant au projet de livre, je suis attelé à plusieurs chantiers. Sans ordre de hiérarchie, je suis en train de mettre la dernière main à une biographie du premier champion du monde noir français, qui s'appelait Batlin Siki, qui était champion du monde de boxe en 1922. Qui a été complètement oublié, et donc je mène un travail d'exhumation depuis une dizaine d'années qui va aboutir dans un an. Je suis sinon à la tête d'un trio et on dirige une histoire qui a des liens étroits avec l'ouvrage que je viens de dire, une histoire des champions noirs dans la France de la Troisième République, qui a pour objet d'abord de réveiller la mémoire de ces personnages qui sont nombreux et qui ont été au devant de l'actualité sportive à cette époque-là, et puis d'interroger la question de l'altérité, c'est-à-dire se poser la question pour aller au plus vite de la manière dont ils étaient accueillis, perçus, avec des relents ou des accents ou des élans racistes ou non. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Donc ça, c'est un deuxième ouvrage qui paraîtra également au début du printemps 2024. Et puis j'ai le plaisir par ailleurs de co-diriger un gros catalogue sur l'histoire des Jeux Olympiques qui ira de pair avec une exposition donnée à partir du printemps 2024 au musée de l'histoire de l'immigration à la Porte Dorée et qui fera office avec un autre ouvrage de catalogue officiel des Jeux Olympiques 2024, enfin en tout cas sur le plan historique. Voilà les projets en cours.
Alors Philippe Tétard, je vous remercie et j'espère qu'à travers cet échange, on aura donné envie à nos auditeurs de découvrir vos livres et notamment Histoire de sport. Je vous dis à bientôt.
À bientôt et merci.
Au revoir.
Au revoir.
As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. If you're alone, I'll come home, home, home. By the sea, I hear your soft voice calling.